Bien, bonjour à tout le monde. Alors, avant de commencer le message, je dois vous transmettre des salutations parce que ces dernières semaines, j'étais pas mal en voyage. Donc, le dimanche dernier, j'étais à Clermont-Ferrand. Et les amis de l'église là-bas m'ont dit de bien saluer les amis à Sonera. Donc, voilà, chose faite. La semaine avant, j'étais à Rieux-la-Pape. Vous avez vu quelqu'un de l'église de Rieux ici ce dimanche-là. On a fait un échange de chair. Donc, je dois aussi vous transmettre les salutations de l'église de Rieux-la-Pape et qui veulent fixer une date pour nous avoir pour un culte ou un repas ensemble au beau jour. L'avance là, j'étais au Havre et les amis du Havre m'ont dit, mais David, il faut bien transmettre les salutations fraternelles à l'église de Rieux-la-Pape. Alors, l'église du Havre, c'était une petite église, j'étais là-haut pour un week-end, et leur culte commence à 10h33. Alors, pourquoi 10h33? J'ai posé des questions, parce que vous allez me poser des questions. C'est parce que normalement, selon la publicité, c'est 10h30, mais à 10h33, un bus s'arrête devant l'église, et 6 étudiants descendent pour venir au culte. Donc, puisqu'il y a un bus toutes les heures ou toutes les 30 minutes, les anciens ont décidé, bon, on va commencer le culte à 10h33. Parce que 6 personnes sur 20, ça fait un certain pourcentage. Donc, une fois que les étudiants sont là, on s'assoit et puis on commence. C'est une tradition, mais je dirais une bonne tradition. D'ailleurs, dans mes voyages ces derniers temps, j'en ai vu pas mal de traditions différentes dans les différentes églises. Dans une église où j'ai été, pendant la première heure du culte, on était debout pour chanter, pour prier. On est resté debout pendant une heure. Au moment de la scène, quelqu'un est venu pour lire, tout le monde s'est assis, 3 minutes, et puis au moment de la scène, tout le monde debout, encore pendant 15 minutes. Et puis pour le message, tout le monde était assis. C'est une tradition. On va pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise. Dans une autre église où j'étais, au moment de la scène, les seuls qui, les personnes qui devaient prendre la scène se mettaient debout. Comme ça, on voyait ceux qui prenaient la scène debout et ceux qui ne prenaient pas la scène étaient assis. C'est une tradition. Il y a des raisons pour cela, certainement. Dans une autre église où j'étais, pendant la sainte scène, il y a un silence de cathédrale. Personne ne bouge. Personne ne respire. Mais dans d'autres églises où j'ai visité, eh bien, pendant le moment de la scène, les musiciens jouent quelque chose de doux, pendant que les uns et les autres participent à la scène, et même parfois pendant qu'ils prient, il y a toujours un peu un fond musical. C'est une tradition parmi d'autres. En tout cas, dans nos églises, il y a des traditions. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, je vous invite à trouver, il y a des traditions. On va le lire après. Colin, merci. Colin, si tu veux juste enlever l'écran, merci. Dans l'évangile de Marc, chapitre 7, il est question des traditions. Et il s'agit des traditions des chefs religieux, des pharisiens. Et Jésus discute avec ces pharisiens. Parce que Jésus veut leur montrer que leurs traditions sont mauvaises. Pas bonne, mais mauvaise. Mais pas seulement mauvaise, mais les traditions de ces pharisiens avaient pris tellement d'importance que leur tradition avait remplacé la parole de Dieu. Et au lieu de se référer à la parole de Dieu, ils se référaient à leur tradition. Et Jésus, en discutant avec eux, d'ailleurs c'est une discussion assez houleuse qui prend la moitié de Marc chapitre 7, eh bien Jésus monte au chefs religieux qui étaient à côté de la vérité. Il leur dit même, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Pour eux, la tradition était plus importante que la parole de Dieu. Alors, pour revenir à l'église au Havre, je suis sûr que s'il n'y a plus d'étudiants qui descendent du bus à 10h33, je suis sûr qu'ils vont commencer le culte à 10h30. C'est pas une tradition, ouais. Inspiré du Saint-Esprit. Mais pour les chefs religieux, c'était autre chose. Leur tradition devenait plus importante que la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de grave. Après cette discussion au sujet des traditions, Jésus a fait un petit voyage. Et on va mettre la carte d'Israël sur l'écran. Jésus était dans le nord du pays. Il a quitté la région de la Galilée. Donc c'est la page... Voilà. Voilà. Alors Jésus donc était... Est-ce qu'on peut baisser un peu? Sinon, je vais devoir monter sur les épaules de quelqu'un. Donc Jésus était dans la région de Galilée. La page 13, je crois. Voilà, oui. Vous pouvez baisser un tout petit peu. Si on peut. Oui, mais ça va aller comme ça. Vous voyez? Voilà, très bien. On ne respire plus, on ne bouge plus. Jésus était dans la région de Galilée, le lac de Galilée, ou la mer Tibériade. Eh bien, après cela, il est monté à Tyr, vous voyez Tyr là-haut, sur la côte, 65 kilomètres du lac de Galilée. Ensuite, il est monté à Sidon, tout est vers haut. Et vous voyez, entre Tyr et Sidon, il y a Sarepta. Ça vous dit quelque chose, la ville de Sarepta? Une certaine veuve qui a rencontré Élie dans 1 roi 17. Donc, Jésus va à Tyr, et après il va à Sidon, et Tyr et Sidon font partie de la région de la Syrie. Mais c'était aussi des villes qui faisaient partie de la région de la Phénicie. Et c'est là que Jésus rencontre une femme. Et nous allons lire ce texte dans Marc, chapitre 7, à partir du verset 24. Et je vais vous inviter à suivre avec moi sur l'écran, parce que j'ai fait quelque chose d'inhabituel. Cette rencontre entre Jésus et cette femme est relatée dans deux évangiles, Matthieu 15 et Marc 7. Et ce que j'ai fait, vous allez voir, j'ai pris le texte de Marc 7 et j'ai rajouté quelques éléments du texte de Matthieu 15 qui ne se trouvent pas dans Marc 7. Donc soit vous pouvez lire avec un œil Marc 7 et l'autre Matthieu 15, soit vous pouvez suivre ce qui sera sur l'écran. Donc Marc 7, et je lis sur l'écran, vous allez voir qu'il y a une petite faute de frappe. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entrait dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser les démons de sa fille. Maintenant, ce qui est en italique, c'est de l'évangile de Matthieu. Elle lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » On reprend l'évangile de Marc. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Selon Matthieu 15, « Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande. » Et Marc conclut, « Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti d'elle. » Nous allons laisser ce texte sur l'écran. Et dans ce texte, nous voyons qu'il s'agit d'une femme. On voit qu'elle est grecque et on sait que c'est une femme qui adorait les idoles. Et il dit cela parce qu'elle était syro-phénicienne. Et à l'époque, tous les syro-phéniciens adoraient des idoles, étaient des idolâtres. Troisièmement, on voit que cette femme était une maman. Peut-être une maman seule. Peut-être une femme divorcée. Peut-être une veuve. Peut-être une mère célibataire. Mais on voit aussi que cette femme, cette maman, était une maman très inquiète. Très troublée. Sa fille est en proie à un démon. Et elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Elle apprend d'une manière ou d'une autre que Jésus est dans cette maison. Et elle y va, elle se jette à ses pieds. Dans le texte, on voit que sa fille n'est pas seulement tourmentée, mais selon une version, il est écrit, elle est cruellement tourmentée. Dans une autre version, on lit, sa fille allait très mal. Dans une autre, on lit, elle souffre terriblement. On peut essayer d'imaginer la peine de chez cette femme quand elle voyait sa fille. Parfois, un parent qui a un petit enfant malade avec 40 de fièvre pendant 2 jours, les parents peuvent être très inquiets, très troublés, malgré tous les médicaments qui existent et la prière. Mais cette femme-là était encore plus troublée, je dirais, avec une fille troublée, tourmentée par un démon. Elle expose son cas devant le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus. Alors, comment est-ce que Jésus va réagir? Vous voyez, j'ai mis des petits chiffres en rond. 1, 2, 3 et 4. Jésus réagit de 4 manières différentes. La première réaction de Jésus, silence. Il ne répondit pas un mot. Jésus ne dit rien. Jésus ne fait rien. Mais est-ce que Jésus ne voit pas la peine de cette femme? Est-ce que Jésus est indifférent devant ses cris, devant ses pleurs? Jésus ne dit rien devant cette femme tourmentée, dans un premier temps. Une grande détresse rencontre un grand silence. Cette femme n'est pas la première personne dans l'histoire du monde à avoir un gros souci, à demander à Dieu de l'aide et qui rencontre un ciel silencieux. Dans l'Ancien Testament, il y a un prophète du nom de Habakkuk. Il avait l'impression que Dieu ne l'écoutait pas. Il dit même, « Seigneur, jusqu'à quand vais-je parler sans que tu m'entendes? Jusqu'à quand seras-tu indifférent devant mon problème, devant mes soucis, devant mes prières, Seigneur? » Dans le livre des psaumes, on voit aussi des psalmistes qui implorent le ciel et ils pensent que Dieu est loin. Que Dieu est silencieux, que Dieu est indifférent. Alors, bien sûr, ce n'est qu'une impression que Dieu est loin, que Dieu est indifférent. Parce qu'il y a tant de textes bibliques qui nous montrent que Dieu est tout près de ceux dont le cœur est troublé, voire brisé. Dieu n'est jamais indifférent aux cris de son peuple. Il y a un livre d'ailleurs qui existe qui est excellent sur ce thème. Ce livre s'appelle « Quand le ciel est silencieux » de Ron Dunn, D-U-N-N. Cet homme-là a beaucoup souffert dans sa vie à cause d'un problème de santé. Il était pasteur évangéliste itinérant. Son fils aîné s'est suicidé. Sa deuxième fille a failli mourir avec l'anorexie. Il a beaucoup souffert. Il a beaucoup crié vers Dieu. Et il raconte ses expériences dans ce livre « Quand le ciel est silencieux ». Parfois, il avait l'impression que le ciel était silencieux. Jésus, dans un premier temps, ne dit rien. Lorsque nous vivons des moments douloureux, délicats, difficiles, pénibles, lorsque nous crions envers le Seigneur de faire quelque chose, si le Seigneur ne dit rien, ou semble ne rien dire, si le Seigneur ne fait rien, cela ne veut pas dire qu'il est indifférent. Cela ne veut pas dire qu'il est trop occupé. Très souvent, lorsque le ciel semble être silencieux, c'est parce que le Seigneur veut nous aider ou veut nous inviter à attendre et à apprendre. attendre sa solution et apprendre la patience et la confiance. C'est facile à dire ça. Mais c'est possible de vivre cela avec confiance dans le Seigneur. Attendre sa solution, apprendre la patience et la confiance face au silence. Bien sûr, les disciples ont décidé de réagir et de répondre à la place de Jésus. Et les disciples lui disent, non, les disciples disent à Jésus, « Jésus, renvoie cette bonne femme. Elle nous casse les oreilles. Elle crie en bon moment de calme. Renvoie-la. » Ce n'est pas la première fois que les disciples ont réagi comme ça envers des gens qui souffraient. Bartimée, l'aveugle, crie, « Fils de David, sauve-moi !» Et les disciples lui disent, « Tais-toi. Jésus est loin. Tais-toi. Tu embêtes le maître. » Quand les parents viennent avec des enfants et ils veulent présenter les enfants à Jésus, les disciples disent, « Ah, les enfants, vous faites trop de bruit. Allez-vous-en !» Les disciples n'étaient pas toujours marqués par la sagesse ou par la tendresse ou la compassion. Mais ces disciples me rappellent certains chrétiens, peut-être certainement moi-même aussi, qui parfois, face à la souffrance des frères et des sœurs, on peut facilement donner des solutions à deux balles. Et ça ne vaut rien. Même deux balles, ça ne vaut rien. Des solutions, on va dire, « made in Taiwan » ou dans le pays des bisounours. Parfois, le silence face aux souffrances d'un frère et d'une sœur parle plus fort que nos paroles, que nos solutions à deux balles. Première réaction de Jésus, donc, silence. Deuxième réaction de Jésus, eh bien, vous voyez le petit 2, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais il vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Autrement dit, deuxième réaction de Jésus, « Eh bien, tu sais, madame, je suis envoyé pour Israël, pour les brebis perdues d'Israël, pour les Juifs. Le salut est d'abord pour les Juifs. Le salut vient des Juifs. Cette femme, n'étant pas juive, était, on va dire entre guillemets, excuse, rejetée d'office. Donc, deuxième réaction de Jésus semble être vraiment décourageante, déprimante pour cette pauvre maman. Mais elle persiste et signe. Viens à mon secours. Cela nous amène à la troisième réaction de Jésus. Le numéro 3, verset 27. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors, il ne s'agit pas d'un langage codé. Il ne faut pas avoir Bac plus 17 pour comprendre ce texte. Il est question des enfants, du pain et des chiens. À l'époque de Jésus, lorsqu'on mangeait à table, on mangeait sans couteau, sans fourchette, sans petite cuillère, et on mangeait avec les mains. Et à l'époque, les gens n'avaient pas de serviettes. Vous savez, on a des serviettes de table qui sont assorties avec la nappe, assorties avec la tapisserie et avec ma cravate de dimanche. À l'époque, ils n'avaient pas tout ça. Donc pour s'essuyer la bouche et les mains, ils prenaient un bout de pain, s'essuyer, les mettre tomber, et puis jeter le pain par terre. Et par terre, il n'y avait pas les petits toutous, parce que les petits toutous n'existaient pas à l'époque. Il y avait des chiens, souvent sauvages, en liberté, et les chiens venaient manger les miettes. Je n'ose pas imaginer les messieurs avec les longues barbes qui mangeaient de la soupe. Ah, oh, bon, on dirait. Je ne vous fais pas un dessin. Hein. On va bientôt manger, donc j'arrête là. Mais Jésus, en parlant ainsi, est en train de dire à cette femme, « Je suis venu d'abord pour les enfants, c'est-à-dire les brebis perdues d'Israël. » Mais, et on le voit à maintes reprises, Jésus est toujours prêt à recevoir ceux qui viennent par la foi. De même que la nourriture destinée aux enfants était donnée aux chiens, de même la grâce qui est offerte à Israël est aussi offerte à toute nation, à tout peuple. En somme, Jésus est en train de parler de ces chiens, qui est un terme très péjoratif, et le terme chien était utilisé par les juifs pour décrire les non-juifs et les femmes. Donc cette femme accepte ce terme et elle dit plus ou moins, je sais que je ne suis qu'une chienne. Je sais que je ne mérite rien, mais je suis prête à me contenter de quelques miettes de ta grâce. S'il te plaît, Seigneur, quelques miettes de ta grâce pour ma fille. La quatrième réaction de Jésus, eh bien, Jésus dit, à cause de tes paroles, à cause de ta foi qui est derrière tes paroles, ta fille est délivrée. À cause de ta foi, à cause de cette parole. Et Jésus dit même aux femmes, ta foi est grande. Je suis sûr que cette femme ne pensait pas avoir une foi énorme. Elle vient supplier l'aide de Jésus. Mais c'est Jésus qui mesure la qualité et la quantité de notre foi, souvent bien vacillante, bien faible. Mais le Seigneur voit la foi sincère de cette femme. Il voit la souffrance réelle de cette femme. Et à cause de cela, dans sa bonté, dans sa grâce, les miettes de grâce tombent sur sa fille. Elle rentre à la maison et sa fille est guérie. Arrêtons un instant sur cette déclaration de Jésus. Ta foi est grande. Jésus remarque la grande foi de deux personnes dans les évangiles. Cette femme qui est païenne, qui devient chrétienne, et un officier romain, païen, non chrétien, qui devient chrétien, dans Luc 7, qui vient demander à Jésus de guérir son serviteur. Et il demande à Jésus, et Jésus dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Deux personnes d'arrière-plan, non chrétiens, païens, mais Jésus dit, leur foi est grande. Et je suis sûr que les deux ne pensaient pas que leur foi était très grande, mais leur petite foi était placée dans la puissance du Seigneur Jésus. Parfois, lorsque nous souffrons, notre foi est vacillante, pas très stable. On a des hauts et des bas. D'ailleurs, hier, j'ai rencontré un jeune homme, un chrétien qui travaille dans les ascenseurs. Et je lui dis, ah, j'imagine que tu as des hauts et des bas dans ta vie. Et il me dit, ah oui, c'est ça, c'est ça. Parfois, dans notre vie, on a des hauts et des bas. Mais cette femme, malgré le silence de Jésus, malgré les paroles de Jésus qui semblent décourager, elle persiste, elle persévère dans sa démarche de foi. Jésus voit sa peine, Jésus voit sa fille, Jésus voit sa foi, et Jésus est intervenu au moment qu'il a choisi. Et Jésus fait même au-delà, tu dirais, de toute attente. Même avant qu'elle arrive à la maison, sa fille est guérie. Il y a une suite à cette histoire. Une trentaine d'années plus tard, lorsque l'apôtre Paul finit un voyage missionnaire, il arrive dans la ville de Tyr, dans Actes chapitre 21. Et il rencontre dans la ville de Tyr tout un groupe de chrétiens. Une église évangélique, comme la nôtre. Comment ça se fait qu'il y avait déjà une église à Tyr? Eh bien, est-ce que cette femme n'a pas commencé à témoigner? Est-ce qu'elle n'a pas implanté une église évangélique dans sa ville? Tout comme la femme samaritaine, convertie, elle a fait un week-end de réveil biblique et une église est née. Tout comme Lydie, dans Actes 16, elle s'est convertie à Philippe, la ville de Philippe, et l'église philippienne est née grâce à cette femme qui s'est convertie, qui a témoigné. Il y a une belle suite à cette histoire dans la ville de Tyr. Alors, vous savez, lorsque le ciel, lorsque le Seigneur semble être silencieux, eh bien, devant nos souffrances, il nous invite, je répète, il nous invite à attendre et à apprendre. À attendre sa solution et à apprendre la patience et la confiance. Facile à dire. Pas facile à vivre. Nous le savons tous. Mais il nous invite à venir à ses pieds pour dire, Seigneur, s'il te plaît, viens à notre secours. Sachant que lui seul peut intervenir, lui seul peut compatir, lui seul peut secourir les chrétiens dans ses besoins. Un missionnaire américain en Colombie a vécu quelque chose de semblable il y a quelques années. Ce missionnaire s'appelait Stendhal, Russell Stendhal. Il était missionnaire en Colombie et il était kidnappé par les FARC, les forces armées révolutionnaires colombiennes. On l'a emmené dans la jungle, loin de sa fille, qui avait 2-3 ans, et de sa femme. On l'a attaché comme un chien, avec une chaîne autour du cou, à un arbre. Et pendant des mois et des mois, il était là, dans la jungle, attaché comme un chien. Et il était chrétien, missionnaire, mais pendant les premiers jours, voire les premières semaines, il criait vers Dieu, et le ciel était silencieux. Il a commencé à en vouloir à Dieu, à se rebeller, à se révolter, et à dire tout un tas de choses à Dieu dont il a demandé pardon plus tard. Il ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que Dieu ne dit rien? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Je suis missionnaire, je dois évangéliser dans la ville où j'habite, et je suis dans la jungle avec tout un groupe de païens. Et puis il se rend compte, ben, je suis avec tout un groupe de non-chrétiens. Peut-être je devrais évangéliser les non-chrétiens avec qui je suis. Donc il a demandé s'il pouvait d'abord avoir un calepin pour écrire un journal, jour après jour, ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait dans la jungle. Donc un des terroristes lui a donné un calepin, il a commencé à écrire. Et puis un jour, un autre terroriste, oui c'était des terroristes, vient et lui donne une machine à écrire. Alors, si vous avez plus de 15 ans, vous savez ce que c'est une machine à écrire. Si vous avez moins de 15 ans ou moins de 20 ans, une machine à écrire, c'est un peu comme un ordinateur, mais ne ressemble en rien à un ordinateur, sauf qu'il y a un clavier et du papier, on va dire. Donc, une machine à écrire. Donc, il a commencé à taper à la machine à écrire. Mais, de temps en temps, parce qu'il était au centre du camp des terroristes, de temps en temps, certains terroristes qui passaient devant le frapper. Un coup de crosse. Un coup de pied. Et puis d'autres étaient plutôt gentils envers lui. Donc il supportait les souffrances physiques et il essayait de taper à l'ordinateur, à la machine à écrire, pour raconter son histoire. Et puis, il y avait des terroristes qui ont vu qu'ils parlaient d'eux par leur nom. Giovanni, Mariano, et ainsi de suite. Donc ils ont dit, mais qu'est-ce que vous écrivez à mon sujet? Donc ils lisaient des choses. Et puis, petit à petit, les terroristes, certains, ont commencé à lui poser des questions sur sa foi. Pourquoi un Américain vient ici, en Colombie? Et puis, il a pu expliquer l'Évangile. Il y a fait plusieurs mois, il ne savait pas, mais Dieu était en train d'œuvrer dans le cœur de plusieurs de ces terroristes. Il y avait certains qui le frappaient tous les jours, et d'autres qui l'écoutaient tous les jours. Il y a fait plusieurs mois, il a pu être libéré, et en quittant le camp, il a embrassé, fait des accolades à pas mal de ces terroristes. On dirait qu'il était triste de les quitter. Et eux, ils étaient tristes de le voir partir. 3 ans, 4 ans plus tard, dans un voyage, dans une visite dans une église, dans la région de la jungle où il a été kidnappé, il va dans une église, il voit quelques têtes, il disait, mais on dirait que je connais ces gens-là. Et à la fin du culte, plusieurs personnes viennent le voir, surtout des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les FARC. Plusieurs personnes, hommes et femmes, viennent le voir pour dire, tu te souviens de nous? On était avec toi dans la jungle. C'est nous qui avons qui t'avons frappé. C'est nous qui t'avons donné la machine à écrire. C'est nous qui t'avons attaché comme un chien. Eh bien, pardonne-nous parce qu'on s'est converti. On a eu une Bible, un évangile, on s'est converti et plusieurs se sont convertis grâce au témoignage de cet homme qui, pendant un premier temps, face au silence de Dieu, il ne comprenait rien. Il en voulait au monde entier. Mais petit à petit, il s'est rendu compte, mais si Dieu m'a mis là, si Dieu ne dit rien, si Dieu ne me libère pas, il y a une raison. Et cet homme, Russell Stendhal, a commencé à attendre et à apprendre et à parler de sa foi. Et des gens se sont convertis. Alors je conclue en disant que lorsque le ciel semble être silencieux par rapport à nous et à nos souffrances, eh bien prions que Dieu nous aide à attendre, prions que Dieu nous aide à apprendre et prions que Dieu nous aide à savoir que lui seul peut nous secourir, combattir et intervenir dans notre situation, en son temps, à sa manière. Et ainsi, toute la gloire lui revient. Prions. Seigneur, merci car tu n'étais pas insensible aux cris, aux pleurs, aux souffrances de cette femme. Viens à mon secours. Merci car malgré nos sentiments ou nos impressions, tu n'es jamais indifférent à ce que nous vivons. Tu nous entends, tu nous vois. Seigneur, aide-nous à vivre de par la foi et avec confiance en toi, même si nous ne comprenons rien de ce qui se passe. Nous savons que nous ne sommes pas seuls à ne pas comprendre grand-chose. Mais aide-nous, Seigneur, à être prêts à attendre et à apprendre dans ces moments difficiles. Que ces moments durent des jours, des mois ou même des années. Aide-nous à te faire confiance. Merci car tu peux compatir. Tu peux nous soutenir. Tu peux nous secourir. Et tu peux intervenir à ta manière, en ton temps. Aide-nous, Seigneur, à nous attendre à toi, quelle que soit notre situation. Et nous voulons que, en toutes choses, toi seul, tu sois glorifié. Amen.